On rentre dans un magasin, on rencontre le vendeur, la vendeuse, qui conseille, qui va à la caisse. Mais n'y a-t-il pas autre chose derrière le métier de vendeur ? Les élèves du dispositif Ulysse du collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine ont voulu le savoir. C'est Hélène qui est venue à leur rencontre.
Bonjour, bienvenue au sein du dispositif Ulysse au collège Samuel Paty. Nous voulons découvrir votre métier. Merci d'être venu nous rencontrer. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Hélène Fichet. Je suis contente de venir vous présenter le métier de vendeuse.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, le métier de vendeuse est un métier qui est assez large. On peut vendre soit des produits, soit des services. Moi, je vendais à la fois des produits, donc des jeux et des jouets et des services. Donc, je le vendais dans une boutique. Donc, ça veut dire que dans le métier de vendeuse, il y a aussi le fait d'agencer la boutique, d'avoir les produits au bon endroit, d'avoir les prix indiqués. Voilà, donc il y a plein de choses à faire au-delà de la vente.
Avez-vous un magasin indépendant ?
Alors, je le dis au passé puisque j'en ai plus, mais jusqu'à il y a 2 mois, j'avais une boutique et j'ai eu jusqu'à 2 boutiques physiques et un site internet de vente indépendant. Au départ, j'ai commencé en franchise, donc je faisais partie d'un réseau et après j'ai été indépendante, donc ça veut dire que c'était moi qui décidais de tout ce qui se passait pour les boutiques que je gérais.
Quel type de produits vendez-vous ? Jeux de société, jeux électroniques ?
Alors, je vendais des jeux et des jouets. Donc, je vendais un petit peu de jeux de société, mais je n'étais pas spécialisée en jeux de société. Je vendais des peluches, des jeux d'éveil pour les bébés. Je vendais des petits jeux de construction pour les un peu plus grands, des loisirs créatifs, donc des coffrets de loisirs créatifs, donc de peinture, de broderie, des puzzles, et je vendais aussi de la papeterie, et notamment les dernières années, je ne sais pas si vous connaissez la marque Legami.
Oui.
Voilà, donc je vendais de la papeterie Legami, je savais que ça vous plairait.
Quelle étude de vente et d'animation avez-vous fait, et quel diplôme avez-vous ?
Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur généraliste, donc je n'ai pas fait d'études de vente. Mais quand on fait un diplôme d'ingénieur, on va étudier les modes de fonctionnement des entreprises, on va étudier le marketing, on va étudier plein de choses. Mais par contre, après, comme je voulais me spécialiser en éducation, j'ai repassé un BAFA et un CAP petite enfance quand j'avais 35 ans. Et 40 ans. Et voilà, donc je suis retournée à l'école comme vous et j'ai passé un BAFA et un CAP petite enfance pour pouvoir animer moi-même les ateliers pour les tout-petits. Alors après, je vais peut-être dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire des études de vente, parce que c'est ça qui vous intéresse. Donc on peut faire soit des CAP, soit des bac pro, soit après le bac aussi faire des BTS. Donc en bac pro et en BTS, ce que je vous conseillerais si vous voulez faire de la vente, c'est de faire de l'alternance, donc d'avoir des parties en entreprise et des parties de cours théoriques. Donc les personnes qui travaillaient avec moi faisaient le BTS MCO, donc c'est après le bac, mais il y a également des bac pro vente qui sont très bien et des CAP vente qui sont très bien.
Est-ce que votre métier est difficile ? Si oui, pourquoi ?
Alors, le métier de la vente est parfois difficile parce qu'on a en face de nous des personnes, donc des personnes qui peuvent être très sympathiques la plupart du temps, mais on peut aussi avoir des personnes qui sont moins sympathiques, et donc ça, c'est forcément un peu plus difficile à gérer. Les autres difficultés de ce métier, ça peut être les pics d'activité où on n'a pas le temps, on court partout, mais pourtant il faut que tout soit organisé et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on fasse des ventes. Et l'autre difficulté qui peut paraître peut-être anodin pour vous, mais c'est que des fois il n'y a personne et qu'on s'ennuie. Et ça, c'est parfois difficile aussi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors moi, je suis maman de 3 enfants et j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était jeu, activité avec les enfants. Et donc, j'avais envie de pouvoir proposer ça à toutes les familles. Parce que des fois, quand on est jeune parent, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire avec son enfant. Et c'était pour ça que j'avais envie de créer ce magasin qui était un lieu de partage et d'échange, et donc vendre des produits qui avaient un intérêt pour l'éducation, pour le développement de l'enfant.
Quels sont vos horaires de travail? Quelle est votre journée type?
Alors, les horaires de travail, moi, je travaillais du lundi au samedi, de 9h à 19h, donc des temps d'ouverture de boutique. Donc, ça veut dire que j'étais là à partir de 8h pour préparer la boutique et que je finissais souvent vers 20h après avoir tout rangé. Donc, c'est un cas un peu particulier, mais c'est parce que je m'investissais énormément dans ce que j'aimais. Les horaires plus classiques vont être sur 5 jours et pas sur 6 jours, comme moi. La journée type, en fait, il n'y a pas de journée type. On va commencer, alors, dans une boutique classique de vente, on commence plutôt vers 10h, mais nous, on commençait très tôt parce qu'on accueillait les enfants le matin en atelier. Donc, moi, ma matinée était consacrée aux ateliers avec les tout-petits, les moins de 3 ans, où je donnais aussi, avant l'ouverture de la boutique, les indications à ma collègue vendeuse sur ce que j'attendais d'elle, donc soit les mises en rayon, soit les réceptions, soit la création des fiches produits sur le site internet, soit le ménage, soit de faire la vitrine. Voilà, donc elle avait une orientation pour la matinée, et après je la rejoignais en deuxième partie de journée où on s'attaquait à tout ce qu'on n'avait pas pu faire le matin, et toujours avec, même si on a une tâche en cours, dès qu'un client rentre, notre priorité est le client. Vous avez fait dire.
Travaillez-vous la nuit au dehors de l'ouverture de magasin?
Comme j'étais gérante de la structure, je ne travaillais pas la nuit, vraiment la nuit, mais après les temps de travail à la boutique, j'avais souvent du temps administratif. Donc on a de la comptabilité à faire, on a de la communication. Donc, travailler les réseaux sociaux, prévoir des publications Instagram, prévoir la mise en ligne de produits sur le site internet, vérifier que tous les stocks sont à jour. On a souvent du travail hors des horaires d'ouverture de la boutique. Mais j'essayais de dormir la nuit.
Avez-vous des salariés?
Alors, j'avais plusieurs salariés. Comme j'avais plusieurs boutiques, j'avais deux vendeuses à temps plein, une venteuse à temps partiel qui venait nous aider le samedi. Et j'avais également des partenaires, donc c'est des gens qui venaient faire des ateliers et qui n'étaient pas embauchés par moi, mais qui avaient leur propre entreprise et qui du coup me facturaient le fait de venir faire des activités chez moi.
Quel type d'animation faites-vous? Comment trouvez-vous les idées?
Alors là, je pense que vous parlez des animations pour les enfants, c'est ça? Ou l'animation dans la boutique? Les animations pour les enfants? Alors, bon, je vais répondre dans le haut 2. Alors, les animations pour les enfants, moi, je suis spécialisée sur les enfants de 0 à 3 ans. Et donc, je faisais beaucoup d'animations d'éveil musical où on prend des instruments, où on chante des petites comptines avec les parents. Et j'avais également des ateliers de motricité, donc de la gymnastique, des ateliers de langue des signes pour apprendre aux parents la langue des signes afin qu'ils puissent communiquer dans les premières années avec les bébés. Avant la communication orale, on utilise la langue des signes pour faire la communication avec les bébés. Et ensuite, j'avais également des ateliers de préscolarisation, donc pour les enfants de 2 à 3 ans. Qui venaient avant d'aller à l'école maternelle, donc avoir une première fois la séparation avec les parents ou avec la nounou dans un groupe d'enfants. Je faisais également des ateliers pour les plus grands, donc 3 à 8-9 ans, donc notamment pendant les vacances scolaires. Et donc là, pour avoir des idées d'activités, on faisait en fonction du calendrier. Donc par exemple, aux vacances de la Toussaint, on faisait Halloween, où on faisait des activités sur l'automne. On faisait pas mal d'activités manuelles. Donc, on est comme tout le monde. On regarde ce qui se fait sur les réseaux en termes de quels sont les trends. Tout bêtement, comme vous, hein. C'est quoi votre trend actuel? Moi, je regardais les trends d'activités pour les enfants en fonction de la saisonnalité.
Est-ce que c'est cher d'avoir son propre magasin?
Pour monter son propre magasin, il faut pouvoir trouver un local, donc un espace qu'on va devoir peut-être acheter le droit d'aller dans ce local. Et ensuite, on va devoir payer tous les mois un loyer. On va devoir payer une assurance, on va devoir payer tout ce qui est électricité, chauffage, comme si c'était une maison. Et après, on va avoir devoir acheter des produits qu'on va vendre. On va devoir acheter des meubles. Donc oui, installer une boutique et avoir une boutique à soi est quelque chose de plutôt cher. La première boutique que j'ai créée, j'ai investi près de 300 000 euros. Donc c'est beaucoup. Et la deuxième boutique, comme je connaissais déjà un petit peu mieux et que je voulais faire moins de travaux et moins investir, j'ai investi moins de 100 000. Donc on peut lancer quelque chose avec un petit peu moins, mais même le un petit peu, c'est déjà beaucoup en fait. Donc pour monter sa propre boutique, c'est très cher.
Quelles sont les qualités nécessaires pour faire votre métier ?
Pour être un bon ou une bonne vendeuse, il faut être sympathique. Sourire, dire bonjour, écouter est très important. Savoir poser les bonnes questions. Et puis, il faut être multitâche. Donc, aussi bien faire du ménage, du rangement, de l'étiquetage que accueillir des personnes et les orienter.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Avez-vous déjà eu des déceptions ?
Alors, les avantages pour moi principaux, c'est que je faisais ce que j'aimais. Ça, c'est vraiment super. Bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients. Je vous ai parlé des temps de présence qui étaient très, très grands. Donc, ça veut dire que je ne suis pas disponible forcément pour ma famille, que je suis aussi peut-être plus fatiguée parce que ce sont des fois, c'est aussi très physique. Donc, quand on a des réceptions ou autre. Donc, ça, je dirais que c'est les inconvénients. Mais l'avantage principal pour moi, c'était la satisfaction de mes clients et voir les enfants super contents de revenir et croire que c'était ma maison tellement c'était un paradis.
Êtes-vous bien payée ?
En tant que gérante d'un commerce, moi, j'étais très mal payée et je gagnais souvent moins que mes propres salariés. Mais ce n'était pas pour ça que je faisais ce travail. C'était vraiment parce que ça avait du sens pour moi. Normalement, quelqu'un qui travaille dans la vente va commencer autour du SMIC et petit à petit progresser. Donc, les personnes qui avaient des responsabilités chez moi gagnaient plus que le SMIC tous les mois et avaient aussi, on a toujours ce qu'on appelle un variable. Donc, si on vend, plus on vend, plus on va toucher. On a toujours une petite prime quand on vend.
Comment gérez-vous votre magasin ?
Alors, gérer un magasin, ça veut dire qu'il faut gérer les actualités. J'imagine que c'est ça que tu veux dire. Comment gérez-vous votre magasin ? Qu'est-ce que je fais ? Donc, je commande des produits, je trouve des nouveaux produits, j'essaye de faire en sorte que chaque produit soit au bon endroit dans mon magasin pour que les personnes le trouvent le plus facilement possible. J'essaye de trouver les produits qu'il n'y a pas ailleurs. Parce que quand on est un petit commerce, en fait, on ne va pas vouloir vendre la même chose que ce qu'on va trouver chez Auchan ou chez Leclerc. On va vouloir vendre des produits qui ont vraiment une histoire et qui sont proches de mon histoire. Et gérer, ça veut dire aussi faire la comptabilité, gérer les comptes, faire les paiements des fournisseurs, faire les paiements des salariés, faire les fiches de paye, faire la communication sur Instagram. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses quand on gère son commerce.
Faites-vous de la comptabilité de votre magasin ?
Au début, quand j'ai démarré, c'est moi qui faisais ma propre comptabilité et qui faisais les fiches de paye. Mais j'ai petit à petit donné cette activité à ma comptable. Mais même si c'est le comptable qui le fait pour vous, ça veut dire qu'il faut être très organisé pour avoir les bons papiers, pour les transmettre au bon moment, pour pouvoir faire les déclarations mensuelles au bon moment. Donc même si ce n'est pas vous qui faites directement la comptabilité, les saisies comptables, vous devez prévoir d'avoir tous les documents à fournir à votre comptable en temps et en heure. Donc c'est quand même beaucoup de travail.
Quel est votre meilleur chiffre d'affaires ?
Mon meilleur chiffre d'affaires, c'est celui que j'ai eu quand j'ai fait ma liquidation. Il faut en arriver au dernier mois et faire des offres
c'est quoi,
promotionnelles. C'est-à-dire quand on liquide, c'est quand on va vendre tout le stock qui nous reste à des prix avantageux, donc faire des grosses remises. Et donc là, par exemple, c'était plus de 30 000 euros sur le mois pour la période en question.
Avec l'inflation, perdez-vous de l'argent ?
L'inflation, ou par exemple, quand il y a des crises, comme il y a eu des crises de transport suite au Covid ou suite là à ce qui se passe au Moyen-Orient, les fournisseurs vont augmenter leurs prix. Donc, on ne va pas acheter les produits au même prix qu'avant. On va essayer d'augmenter un petit peu les nôtres, mais pas autant. Donc, on va perdre un petit peu d'argent, on va perdre un petit peu de marge, ce qu'on appelle la marge, donc ce qui va nous revenir. Mais moi, je n'ai pas été trop touchée. J'ai toujours réussi à quand même garder un bon socle et quelque chose d'équivalent. Mais c'est vrai que c'est toujours dangereux pour nous quand il y a des périodes d'inflation.
Avez-vous beaucoup de clients ? Est-ce une clientèle variée ? Y a-t-il un type de clients jeunes, âgés, aisés ?
Alors, mon commerce, je l'ai eu pendant à peu près 15 ans. Et pendant ces 15 ans, j'avais 6000 à peu près clients référencés dans ma base. Donc, tout le monde ne donne pas son nom. Donc, on peut dire que j'avais beaucoup de clients. Après, j'avais une clientèle noyau qui était très fidèle. Donc, qui revenait très souvent. Et donc, il y avait une clientèle relativement aisée pour ceux qui venaient régulièrement acheter. Mais j'avais aussi des familles moins aisées. Qui avaient envie aussi d'acheter des choses qualitatives pour leurs enfants. Donc, c'est souvent des parents qui venaient, donc pas des très, très jeunes, enfin, pour vous. Mais ça pouvait être aussi des grands-parents. Voilà, donc j'avais peu de petits jeunes de votre âge.
J'ai une question. Et juste, ça veut dire quoi, qualitatif ?
Qualitatif, on entend dedans qualité. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui vont être robustes, qui vont être bien pensés, qui vont durer dans le temps.
Ah, des produits de marque, genre qualité.
De qualité. Qualitatif, qualité.
Qui restent longtemps.
Qui vont rester longtemps et qui ont du sens.
Comment trouvez-vous les idées des produits qui vont intéresser vos clients ?
Toujours pareil, les réseaux sociaux. Hein, on regarde tout ce qui va être dans les tendances. Donc, moi, je vais regarder les tendances autour de la parentalité, donc autour de ce qu'aiment les parents actuellement. Je vais regarder aussi ce que sortent les marques. Je vais dans des salons spécialisés. Donc, par exemple, il y a Maison et Objets qui est un salon qui a lieu deux fois par an. Il y a Playtime aussi qui est un salon avec des marques, des plus petites marques. Mais en général aussi, le meilleur moyen de trouver ce qui est tendance en ce moment, c'est d'écouter ses clients. Donc, par exemple, si deux fois dans la même semaine, les gens rentrent pour me demander des cartes Pokémon, je me dis « Ah, il faut vraiment que j'ai des cartes Pokémon !» Voilà.
Comment trouvez-vous vos fournisseurs, quoi ? Ils sont où ?
Les fournisseurs, je les trouve soit directement sur les salons, soit quand j'ai vu un produit qui m'intéresse beaucoup par rapport à une tendance, par exemple Legami, les stylos Legami, quand j'ai vu que ça devenait à la mode, ben je vais chercher sur leur site internet comment les contacter et je les contacte. Donc Legami est une société italienne, mais il y a toujours un revendeur en France. Donc c'est eux qui vont me dire à qui m'adresser en France.
Est-ce que votre magasin est connu ?
Alors, mon magasin était connu localement. Donc, j'avais un magasin à Saint-Germain-en-Laye et un magasin à Poissy. Donc, je n'avais pas à Conflans. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Après, par exemple, sur les réseaux, j'avais 1500 personnes sur Instagram et sur Facebook.
C'est comment s'appelle le magasin ?
Mon magasin s'appelle Hélène et compagnie.
Avez-vous du mal à trouver le nom de votre enseigne ?
Non, parce que j'avais l'habitude d'utiliser mon prénom et je voulais que ce soit quelque chose qui fasse familial. Donc, Hélène et compagnie, c'est venu naturellement.
Est-ce que le prix est plus cher que les grandes surfaces ?
Alors, en règle générale, j'essaye de vendre des produits qui ne sont pas dans les grandes surfaces. Et de respecter les prix que conseille la marque du produit que je vends. Après, par exemple, des fois, quand on veut vendre des produits comme des Lego, Lego ne va pas vendre le même prix à un petit magasin indépendant qu'à une grande chaîne de supermarchés parce qu'ils vont en acheter beaucoup. Donc, par exemple, sur des produits comme ça, je ne peux pas vendre au même prix, parce que je ne l'achète pas au même prix. Mais souvent, je ne vends pas les mêmes choses que dans les grandes surfaces, et je les vends au prix le plus juste, donc au prix conseillé.
Votre magasin est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Alors, maintenant, tous les magasins qui reçoivent du public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Par exemple, moi, j'avais une marche, donc c'est compliqué, mais on a quand même toujours une rampe d'accès et une sonnette. Et après, on a aussi des marquages au sol pour les personnes qui sont malvoyantes. Et on a aussi un niveau de caisse qui est adapté aux personnes de plus petite taille ou en fauteuil. Voilà, c'est ça la façon dont on adapte notre magasin.
Quels sont vos meilleurs et plus mauvais souvenirs ?
Alors, mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand un enfant ressort avec le sourire et vient me reparler toutes les semaines de ce qu'il a acheté et qu'il adore, avec les yeux qui brillent et un grand sourire. Mon plus mauvais souvenir, je pense que c'est quand il y a des clients qui sont pas satisfaits et qu'ils postent un avis sur Google, par exemple. C'est quelque chose dont on n'est pas maître. Nous, on fait notre mieux tout le temps pour satisfaire le client, mais quand le client le met derrière, sans nous en avoir parlé avant, moi, ça m'a toujours beaucoup blessée.
Racontez-nous une anecdote.
Alors moi, ce que je préférais, c'est quand les enfants venaient avec leurs sacs remplis de centimes. Mais les sacs comme ça, pour payer 30 euros avec des pièces en centimes et qu'il fallait faire des tas, et j'adorais ça. Voilà.
Du coup, vu que vous êtes la gérante du magasin, quand vos collègues ont genre raté ou font des bêtises, est-ce que vous les punissiez ?
Alors moi, je ne suis pas adepte de la punition, mais par contre, ce qui est important de faire dans ces cas-là, c'est de le dire déjà, de faire le point avec la personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a le droit de faire des erreurs. Et à ce moment-là, d'essayer de corriger ensemble, de trouver la bonne façon de faire ensemble.
Oui, mais genre, vu que c'est vous travaillez là-bas, est-ce que vos collègues, des fois, quand ils font tomber un jouet, vous dites quelque chose ou rien du tout ? Vous êtes sympa ?
Est-ce que j'ai l'air méchante ?
Non, mais c'est une question.
Alors, si c'est juste faire tomber un jouet, c'est pas grave, du moment qu'il casse pas. Mais si le jouet casse et parce qu'elle a fait n'importe quoi, je vais lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as sauté partout comme ça ? Mais si tu fais des bêtises, c'est normal qu'on te le dise que tu fais des bêtises, non ?
Par exemple, des fois, vous travaillez ensemble, mais vu que c'est à vous, la boutique, est-ce que, genre, vous...
Mais c'est comme si j'ai... Même si c'était pas à moi, la boutique, et que j'étais ta chef... Si tu fais une bêtise, je viendrai te le dire. Je te dirai, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu as fait ça ? Est-ce que tu peux m'expliquer pour...
Non. S'il y a des sanctions.
Oui, voilà.
Alors, pas de sanctions en tant que telle. Avant de faire quelque chose qui mérite une sanction, il faut vraiment faire quelque chose de très grave, détourner tout l'argent de la boutique et autres. Et ça serait malveillant de prendre tous les sous de ma boutique, de la caisse. Ça pourrait mener à une sanction, mais je ne suis jamais arrivée à ça, parce que j'ai choisi les personnes avec qui j'ai travaillé. Alors, j'avais une salariée qui venait d'arriver et qui, un mercredi où j'étais dans l'autre boutique, fait une vente qui est assez grosse, 600 euros. C'est pas mal, c'est une bonne vente. Et elle prend un chèque. Alors que pour les ventes qui sont importantes, on ne prend pas de chèque. On prend en carte ou en espèces, mais on ne prend pas de chèque parce que c'est risqué. Et elle prend un chèque. Donc le chèque, bien sûr, n'est jamais passé. Je n'ai jamais eu cet argent. Parce que le chèque, ce n'était pas un vrai chèque. Alors oui, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas très contente parce qu'on avait dit qu'au-delà de 100 euros, on ne prend pas les chèques. J'ai dit, ok, c'est peut-être que moi, je t'ai pas bien expliqué. Donc du coup, on a repris ensemble et je lui ai dit, jusqu'à 100 euros, on peut prendre les chèques et on va noter ça, au dos du chèque, donc la carte d'identité et autres. Mais c'est pas grave, c'est moi qui prends la perte. Mais c'est normal, on peut faire des erreurs, on peut faire des fautes. Ça, c'est une erreur. Il n'y a pas une faute parce que je lui avais déjà dit 3 fois et à la 3e fois, elle fait encore la même erreur. On a le droit de faire des erreurs, même si ça fait une perte pour moi. D'accord ? Tu comprends ce que je veux dire ?
Oui. Quel produit se vend le mieux ?
Ben là, dernièrement, je vendais bien les Legami. Mais je ne sais pas si vous connaissez les petites figurines Sony Angel.
Oui.
Voilà, donc ça aussi, ça se vendait très bien. Et les cartes Pokémon, bien sûr. Et les peluches Jellycat. Voilà, c'était mes...
Quel conseil donnez-vous à un jeune qui est conseillé, qui est intéressé par la vente?
Alors déjà, je peux lui conseiller d'essayer de voir s'il peut faire des petites ventes occasionnelles, par exemple sur des marchés ou quand il a le, enfin au-delà de 16 ans, hein, quand il peut travailler le week-end, faire des ventes dans une boutique, déjà pour voir si ça l'intéresse. Et après, de regarder ce qu'il peut faire comme étude. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, le CAP vente ou le BTS ou le bac pro vente.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin ? Y a-t-il d'autres produits ? Enfin, est-ce qu'il y a d'autres produits hygiène ou il y a, enfin, par exemple, il y a quoi comme objet ? Enfin...
Je ne vends pas de couches ou de poussettes. Je vends des jeux, des jouets, des livres.
C'est comme un magasin, comme Micromania.
Non, parce que je ne vends pas des jeux vidéo. Je vends, ce que je te disais, des Sony Angel, des Legami, des peluches Jellycat, des coffrets, par exemple, Gecko. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu, mais pas que. Voilà. Plein de choses différentes, mais pas jeux électroniques.
Comment choisissez-vous les produits à vendre ?
Alors, c'est en fonction de ce que les clients me demandent et en fonction de moi, ce que j'aime bien.
Si vous deviez décrire votre métier en 3 mots, ce serait lesquels ?
Alors, 3 mots. Sourire, conviction et dynamisme. Parce que si on n'est pas convaincu de ce qu'on vend, on ne le vend pas. Et si on n'est pas dynamique, notre magasin ne donne pas envie, puisque c'est qu'on ne s'est pas investi dedans.
J'ai une question. Quand, comme là, vos magasins ils sont fermés, vous avez mis où tous les Legami, tous les trucs comme ça?
Ben, je les ai vendus. Je les ai vendus, ça y est, j'en ai plus.
Vous avez une carte au trésor.
Juste, ça veut dire quoi, conviction ?
Alors, conviction, être convaincu, ça veut dire y croire, voilà. Ça veut dire être investi, vouloir faire ça. Est-ce que tu sais convaincre quelqu'un ? Est-ce que tu vois ce que c'est convaincre ?
Convaincre la personne.
Convaincre, ça veut dire lui changer son état d'esprit et qu'il vienne à la même idée que toi.
Oui.
Donc là, c'est si tu es convaincu, c'est que tu sais convaincre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis sûre que mes produits, c'était les bons et que je savais pourquoi j'avais choisi ces produits. Et donc, je sais que je vais te convaincre d'en acheter. Voilà.
Qu'est-ce qui vous rend fière dans votre travail ?
Ce qui me rend fière dans mon travail, c'est ce que j'ai, d'avoir les petits enfants qui ont les yeux qui brillent quand ils rentrent dans ma boutique, ceux qui se roulent par terre pour avoir tous les produits de ma boutique et ceux qui viennent me faire des gros câlins parce que j'ai réussi à leur faire quelque chose qu'ils ne se croyaient pas capables de faire et pourtant je sais qu'ils peuvent le faire.
Nous vous remercions infiniment d'être venus à notre rencontre et d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre curiosité.
Bah, merci à tous pour toutes vos questions. Merci d'avoir osé les poser, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de s'adresser à des adultes. Et j'espère que j'aurai donné envie à certains de faire de la vente.